Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Maxime Claval.
Bonjour.
Bienvenue dans le podcast des 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, ce podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par la NEF. C'est notre partenaire unique pour ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Et la NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Maxime, toi, tu es le fondateur d'Aircool, qui a pour objectif de rafraîchir les bâtiments grâce à une peinture réflective blanche. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous discuterons d'innovation, forcément d'optimisation aussi. L'optimisation des bâtiments, l'optimisation de la technologie, de nos villes, forcément, et plus largement du rôle des entreprises dans le changement climatique. Pour commencer cet échange, Maxime, je te pose la même question, qui est désormais une question rituelle. Tu arrives dans un événement où tu es amené à rencontrer de nouvelles personnes et arrive cette question fatidique. Toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds?
Question qui peut amener des réponses très longues, mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Je pense que déjà désormais, effectivement, je mènerai à parler de mon travail. C'est malheureusement un réflexe, mais je crois que je réponds ça quand même. C'est-à-dire que, voilà, que je suis le fondateur d'Aircool et que c'est, comme tu l'as dit, une entreprise qui propose des peintures blanches réflectives qui font baisser la température. Et après, effectivement, à côté de ça, je fais d'autres choses. Je suis papa de deux enfants. Je viens de Nantes, une ville dans laquelle j'habite depuis une dizaine d'années. Et dans laquelle je suis très bien. Donc c'est une question très large, mais je crois que si ça devait arriver avec des gens inconnus, j'ai encore ce réflexe de parler de mon travail en premier lieu, ce qui arrive assez souvent.
Ouais, tu as raison, hein. On a ce réflexe à venir tout de suite se définir par notre travail, et c'est pour ça aussi que j'aime bien continuer à poser cette question, parce que dès le début, ça nous permet aussi de faire un pas de côté et nous poser la question de la place de notre travail dans nos vies, forcément, mais aussi de cette relation qu'on a au travail, puisque toutes les personnes que j'interviewe dans le podcast 2030 Glorieuse, elles ont une relation toute particulière à leur travail. Et toi, Maxime, tu as en plus, depuis assez longtemps, hein, pour avoir parcouru notamment ton profil LinkedIn, ce sens de l'engagement dans ton travail. Tu étais précédemment chez Enercop, par exemple, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, effectivement. Ça fait effectivement plusieurs années que j'essaye de faire en sorte que mon travail se conjugue bien avec mes envies et les choses que j'ai envie de faire dans la vie. Et ça, c'est des choses qui s'accélèrent, hein, de plus en plus. Mais j'ai effectivement travaillé chez Enercop il y a encore 2 ans. C'était il y a pas si longtemps que ça. Et même en amont, mon premier job, c'était un travail d'ingénieur thermicien dans un bureau d'études thermiques. Donc tout ce qui est faire les calculs sur les économies d'énergie, donc ça c'était une dizaine d'années. Et il y avait même un poste qui s'était ouvert de consultant bilan carbone, qui était encore assez nouveau, hein, il y a 10 ans, où on travaillait avec les collectivités pour faire des premiers bilans carbone et les amener à ça. Et puis aussi, j'ai bossé en start-up. Alors c'était, ce mot est assez galvaudé, mais on faisait un thermostat qui permettait de gérer la température des bâtiments, soit à distance, soit de façon un peu automatisée. Donc il y a toujours eu ce sujet, on va dire, climatique dans ce que j'ai fait professionnellement, soit via de la technologie, hein, via Kivivo typiquement, soit via des choses un peu plus larges comme Enercop. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui m'importent beaucoup et je l'ai dit tout à l'heure aussi, de plus en plus, enfin voilà, j'ai deux enfants, et clairement, c'est pas nouveau non plus, hein, quand tu as des enfants, enfin en tout cas moi c'est ça qui m'a poussé à aller encore plus loin, quand tu as des enfants qui naissent en 2016 et en 2020 pour ma part, bah tu penses à l'avenir un peu différemment. Tu dis, ok, bon, si tout se passe bien pour eux, ils vont vivre jusqu'en 2100, et bah, ça fait un peu peur, en fait, de dire, ok, 2100, c'est très très loin, et donc, qu'est-ce que je peux faire de façon un peu égoïste, hein, de mon côté, pour essayer de changer un peu les choses, quoi.
Ouais, parce qu'on aurait pu penser, en regardant ton parcours, que tu étais chez NERCOP, et NERCOP, ça ressemble un peu à l'accomplissement pour... les ingénieurs qui s'engagent sur ces questions climatiques, c'est un beau modèle de production d'énergie au niveau local, avec une participation citoyenne, un format coopératif. Ils ont un peu tout bon, NERCOP, quand on le regarde sur le papier. Et moi qui ai eu le plaisir de les côtoyer depuis pas mal d'années, je me rends compte à quel point l'engagement qu'on voit dans leurs chiffres, dans leur communication, il est assez concret dans leur vie du quotidien. Et en même temps, toi, tu t'es dit que c'était pas suffisant justement pour répondre à cette urgence, puisque c'est une urgence pour lui donner encore un peu plus de caractère, un peu plus de couleur, la matérialiser, notamment pour les personnes qui nous écoutent, qui est vraiment, vraiment prépondérante, j'allais dire, parce que pour les enfants qui sont nés là en 2020, il faut savoir que ces enfants, ils vont vivre dans leur vie au moins 30 canicules, comme nous on l'a connu en 2003, cette canicule qui a tant fait parler d'elle et qui a malheureusement créé la mort de plusieurs milliers de personnes. Donc c'est un vrai sujet. Et donc du coup, NERCOP, pour toi, c'était pas suffisant, t'as fondé Aircool, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors je sais pas si c'était pas suffisant, parce que NERCOP, et c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant chez NERCOP, hein, y a un côté collectif très fort et qui est très important pour justement lutter contre le réchauffement climatique et ce genre de choses. Donc ça, c'était un élément important, et j'ai franchement beaucoup appris sur ce sujet avec eux. Après, moi, j'ai un sujet que je porte depuis assez longtemps, qui est ce sujet de baisse de la consommation, de sobriété énergétique, que porte aussi NERCOP, mais c'est pas le premier sujet, parce que c'est un fournisseur d'électricité, et donc y a quand même ce sujet de vendre de l'électricité renouvelable. Et voilà, moi personnellement, j'avais envie d'aller plus loin sur cette partie baisse de la consommation, qu'on peut appeler sobriété ou efficacité, hein, des fois ça joue sur les deux tendances. Et puis il y avait un troisième sujet qui était le sujet de l'adaptation au changement climatique, qui est encore un sujet assez peu porté, qui est globalement de se dire, bon, c'est bien de faire baisser les consommations d'énergie, et il faut le faire, parce que sans ça on n'arrivera à rien, mais il faut aussi savoir que globalement le changement climatique il va être là et il va s'accélérer, et donc il faut aussi trouver des solutions d'adaptation à ce que tu disais, à des canicules de plus en plus fortes, à des intempéries aussi qui peuvent être de plus en plus importantes. Donc il y a ce sujet-là qui me trottait en tête quand je bossais chez NERCOP, et puis voilà, il y a eu l'occasion de le faire, donc de me dire, ok, bon, il y a peut-être autre chose à créer en plus, quoi.
Et donc, tu dupliques cette technique de cool roofing dont on entend parler depuis quelques années. Hein. Détrompe-moi dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu né aux États-Unis. J'en ai entendu parler pour la première fois avec des tests à Los Angeles, si je dis pas de bêtises. Et toi, tu apportes cette technique-là avec ton entreprise Aircool qui commence dans l'ouest de la France.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, donc, on le sait, hein, la peinture blanche, globalement, elle va stocker moins de chaleur que la couleur noire. Et ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, il y a une dizaine d'années, il y a ces peintures réflectives qui sont développées, donc ces peintures blanches réflectives qui sont développées, avec dans la peinture des pigments qui sont là pour renvoyer un maximum d'infrarouge. Parce que les infrarouges, c'est la chaleur. Et donc, ça a effectivement démarré à Los Angeles il y a une dizaine d'années. Depuis, ça s'est franchement accéléré aux États-Unis. Il y a des milliers de bâtiments aujourd'hui qui ont des toitures blanches réflectives. Il suffit d'aller voir sur Google Maps certaines villes, c'est assez impressionnant. Et donc, effectivement, en voyant ça, je dis, voilà, il y a quelque chose à faire, et c'est malheureusement pas assez connu et répandu en France et en Europe. Et donc il faut le développer, quoi. Donc c'est à partir de ce constat de dire, mince, il y a des choses intelligentes qui existent aux États-Unis, il faut le développer. Donc c'est comme ça que ça a démarré.
Comment tu définirais, comment tu nommerais ton métier? Tu es rafraîchisseur de bâtiments, tu es je sais pas, développeurs de sortes de solutions de climatisation low-tech, comment tu le nommerais?
Ah, c'est une bonne question, je sais pas. On ne s'est pas donné de petits noms au sein de l'équipe, de savoir comment... Ouais, rafraîchisseur de bâtiment. Nous, ce qu'on dit, c'est effectivement, on dit qu'on refroidit les bâtiments sans réchauffer le climat. C'est notre petite phrase d'air cool, mais ouais, c'est globalement ça. Hein, c'est de dire, bon voilà, soit vous avez un bâtiment qui n'est pas encore climatisé, mais vous êtes trop chaud, et donc si on pouvait éviter d'acheter une clim, ça serait très bien, et donc on a des peintures qui permettent ça. Soit effectivement, c'est des bâtiments qui sont déjà climatisés et où on vient faire baisser la facture et la conso de clim. Donc effectivement, ouais, on peut dire qu'on est des rafraîchisseurs de bâtiments, ça, c'est quelque chose qui marche. Ouais.
Ça te va bien. Et pour qu'on parle un peu de l'efficacité, du côté impact de cette démarche, moi j'ai lu que pour 100 mètres carrés de toiture peinte, on parle d'une réduction de l'équivalent de 15 tonnes des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Parce qu'en fait, du coup, vous abaissez la température de la planète, mais c'était pas clair. Et donc du coup, j'étais curieux que tu m'expliques exactement comment ça marche.
Ouais, c'est un sujet qui n'est pas facile à expliquer et qui m'est tombé dessus un jour où il y a un ingénieur qui m'a envoyé un mail, je crois que c'était même sur LinkedIn, qui m'a envoyé un message en direct et qui me disait, qui me demandait de combien d'émissions de CO2 on faisait baisser les émissions. Et donc moi, j'avais ce calcul assez simple de dire, bah voilà, nous on fait baisser la consommation de clim, une clim ça émet tant de CO2 et donc on arrive à un chiffre qui est environ de 1 tonne de CO2 pour 100 mètres carrés repeint. Et en fait, cet ingénieur m'a démontré par A plus B qu'il y avait une sorte d'effet banquise. Globalement, en fait, ça c'est des choses qu'on sait, hein, c'est typiquement si le pôle Nord et le pôle Sud étaient remplis de glace, ou même le monde entier avait un tiers de banquise, bah, globalement il ferait 0 degré sur Terre, on serait pas à 15-20 degrés, et à l'inverse, s'il n'y avait pas de glace du tout, il ferait 40-50 degrés partout sur la Terre, parce que globalement, bah, les rayons lumineux et infrarouges sont renvoyés par la glace. Et donc, en fait, ce sujet, cette personne, et ensuite je l'ai fait relire à différents ingénieurs et docteurs en physique qui ont validé la chose, cette personne avait fait des calculs en disant, bah voilà, le fait de passer d'un toit noir à un toit blanc, bah, t'as un petit effet banquise, en fait, toiture
c'est
par toiture.
C'est le fameux effet albédo, hein, c'est ça, non? On parlait ouais, de l'effet albédo quand on était à l'école, c'est ça? Ouais.
C'est ça, c'est exactement ça, c'est l'albédo, c'est la capacité à renvoyer le plus de lumière et le plus de chaleur possible. Et donc, bah, nous, quand on repeint les toits en blanc, effectivement, on fait baisser la température dans les bâtiments, c'est le premier rôle, mais il y a un effet aussi global, on va dire, qui est de rafraîchir la planète grâce à ça.
Et j'avais une curiosité, je t'avoue, maintenant j'ai vu que ça fait quelques années là que tu développes le projet, que vous avez des concrétisations, des fiertés que vous mettez en avant avec des entreprises dont les toitures sont plus ou moins grandes, qui passent du coup ce coup de peinture réflective. J'imagine, et donc c'est là je voulais ta confirmation, mais j'imagine que souvent les entreprises, elles te contactent d'abord pour un souci d'économie, puisque tu disais que ça permet de réduire la consommation d'électricité en été de climatisation. Est-ce que, en fait, je me trompe? Est-ce que c'est plutôt des entreprises qui viennent par souci écologique? Comment ça marche?
Ouais, alors c'est clairement de l'économique. Hein. Là, pour le coup, il ne faut pas se voiler la face. Alors, il y a différents cas, mais globalement, c'est quand même un sujet où nous, on leur amène des économies d'énergie et finalement un calcul de temps de retour sur investissement, de leur dire, voilà, vous consommez tant de climatisation, vous allez investir tant d'euros avec notre solution, et finalement, les économies que vous allez faire vont être remboursées assez rapidement, en quelques années. Donc, le sujet, il est là, en fait. Il est économique, même si le sujet écologique commence à venir, soit par des... motivation, on va dire, personnelle, hein, de dirigeants qui veulent s'engager et donc faire des choses, ou parfois des motivations, on va dire, obligatoires, hein. Il y a des décrets qui commencent à sortir. Moi, je pense au décret tertiaire, hein, qui est un décret qui va inciter, en fait, les entreprises à baisser de 40% leur consommation d'énergie d'ici 2030. Et donc, bah, les grands groupes, hein, surtout, commencent à voir ça, se dire, ok, il faut qu'on fasse des choses, et donc voilà, ils y arrivent. Mais le sujet principal, c'est un sujet économique, c'est de leur montrer qu'ils, qu'ils ont intérêt à faire des économies d'énergie parce qu'il va faire de plus en plus chaud, parce que le prix de l'électricité va augmenter d'année en année. Et donc, ils ont tout intérêt à passer par nous. Voilà.
On parle là uniquement de dérèglement climatique, seulement notre 21e siècle. Si effectivement le défi climatique est un défi d'ampleur, on va faire face à d'autres montagnes à gravir. Donc climatique, ça c'est sûr, on vient d'en parler. Mais aussi, la première qui me vient en tête, c'est l'extinction de masse des espèces. Est-ce que vous avez réfléchi aux externalités et peut-être négatives que votre peinture elle pourrait avoir sur la biodiversité?
Ouais, c'est des sujets qu'on a effectivement sur là-dessus. En fait, il y a plusieurs externalités qui peuvent avoir et qui viennent en tête tout de suite. Hein, c'est que c'est de la peinture. Donc nous, le sujet, c'est d'avoir une peinture qui soit la moins nocive, la plus propre possible. Je sais pas comment le dire, mais effectivement, on a une peinture qui est une peinture à l'eau. Donc c'est un premier point qui est important. Il n'y a pas de COV. Tu sais, c'est les particules qui peuvent être émises. Donc ça, c'est un point important. Un autre point important, et c'est en lien aussi finalement avec ce qu'on propose aux clients, c'est que le but de cette peinture, c'est qu'elle reste en toiture le plus longtemps possible pour les clients, mais ça a aussi finalement un impact environnemental important, c'est-à-dire qu'une peinture qui se met en toiture et qui au fil des années se lessive, en fait, qui disparaîtrait à cause de l'eau de pluie, et qui irait finir dans les eaux usées ou sur autre chose, ça n'a pas de sens. Donc on a aussi en fait mis au point une peinture qui a une accroche très forte sur la toiture et qui garantit en fait une durée de vie de plus de 10 ans pour éviter effectivement des problématiques derrière de peinture qui se lessiverait et qui irait dans les eaux usées. Donc ça, c'est des points importants effectivement sur lesquels on avance et sur lesquels aussi on va vouloir se développer avec des peintures aussi avec des matériaux recyclés dans ces peintures. Donc ça, c'est des sujets qu'on peut malheureusement pas faire tout de suite parce que comme toute petite boîte, on fait avec les moyens du bord. Mais on avance là-dessus en tout cas et je pense que d'ici un an ou deux, on arrivera à faire encore mieux. Mais effectivement, c'est des sujets importants, c'est clair.
Depuis tout à l'heure, on parle de dérèglement climatique, on parle de sujets qui sont extrêmement graves. Et d'un autre côté, on parle de peinture. Tu vois le grand écart un peu qu'on est en train de faire. Moi, je croyais que le dérèglement climatique, quand on regardait la télévision et les films hollywoodiens, ça serait réglé grâce aux experts, aux ingénieurs, mais plutôt à la Elon Musk. Alors que là, on parle presque de low-tech. Est-ce que tu peux me traduire ce grand écart presque, hein, en fait, là, dont toi, tu es l'un des exemples?
Ouais, bah c'est vrai que c'est un grand écart. Alors, moi, je te le disais en intro, hein, je suis passé par des boîtes, on va dire, technologiques, hein, avec les thermostats connectés et ce genre de choses, qui ont aussi des choses intéressantes, hein, parce que faut pas mettre tout, on va dire, dans les extrêmes. Mais effectivement, ce sujet low-tech est hyper intéressant, et au final, quand on creuse un peu, on se dit que c'est là où il faut aller, enfin... Il y a des personnes comme Philippe Biwi ou même Jean Covici, hein, qui parlent de croquettes pour machines, ce genre de choses. Bon, on voit bien qu'il faut pas aller dans ce sens-là parce que finalement les machines consomment et il faut les produire et ainsi de suite. Donc plus on peut faire low-tech, mieux c'est.
Non mais toi qui es ingénieur, est-ce que tu avais cette vision de l'ingénieur qui s'accomplirait à travers, je sais pas moi, ouais, cette ville connectée qu'on voit j'en sais rien, à la Blade Runner, ou est-ce que tu imaginais cette géo-ingénierie avec ces missiles qu'on allait tirer dans l'atmosphère pour pouvoir réguler les pluies, ou est-ce que en fait ta conviction d'ingénieur, ta curiosité d'ingénieur, elle s'épanouit aussi très bien avec le fait de mettre des coups de rouleau sur toutes les toitures des grandes entreprises de France?
Ouais, moi ça me va très bien de mettre des coups de rouleau de peinture sur les toits. Alors, ma vision d'ingénieur à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand j'étais en école et quand je sortais d'école, je dois t'avouer que elle était encore un peu floue, on va dire. J'avais pas cette formation, on va dire, très technocentrée. Donc c'est quelque chose qui vient en avançant, tu vois, de petit à petit. Voilà, tu lis des choses, tu avances et puis. Puis ouais, tu te rends compte que bon, déjà il y a pas que l'ingénierie dans la vie, et que ouais, il faut faire avec des choses simples et revenir des fois aux racines. Mais je dis pas non plus que la technologie a du mauvais. Il y a des bonnes technologies et il y en a aussi des mauvaises, mais il y a un peu de tout. Mais clairement, le low-tech, quand on voit les choses qui sont dans le low-tech, c'est quand même hyper intéressant et on voit bien que c'est des choses qu'il faut pousser un peu plus, quoi.
Mais moi qui, tu vois, dans ma jeunesse, ai travaillé pour mon père qui avait cette boîte d'électricité, d'installation de climatisation, j'en ai installé plein des climatisations dans les bureaux pour les particuliers, des climatisations réversibles, etc., etc. Et en fait, tu vois, maintenant, de me dire que... Bah, un coup de peinture blanche, ça avait quand même un vrai effet sur le confort d'utilisation d'un bâtiment, d'une maison. Ça me pose question face à notre relation à la simplicité, à notre envie de technologie, à notre rapport à cette puissance qu'on essaye d'acquérir et toujours plus, notamment à travers l'utilisation de ces différentes machines. Parce que ce coup de peinture-là que je dis presque comme si je le dénigrais, alors que pas du tout, ça a un vrai impact positif sur le confort. J'ai lu que c'était quand même en moyenne un gain de 5 degrés, hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui est chouette, c'est qu'effectivement, c'est nos clients qui le disent en premier. On a des clients qui... Alors là, je vais parler des particuliers parce que c'est là où on va dire, l'inconfort est le plus prégnant, mais des gens qui nous disent, voilà, moi, l'été, j'ai ma chambre qui est sous comble, par exemple, ou qui est sous la toiture, et il fait très, très chaud chez moi, je dors mal, les enfants dorment mal, et ainsi de suite. Et que grâce à notre peinture, ils voient les gains, ils voient qu'ils dorment mieux, et ils mesurent leur température, ils voient bien que ça va mieux. On a des clients aussi qui ont les salons aussi sous la toiture et qui nous disaient, l'été on peut pas inviter des amis parce qu'il fait trop chaud dans le salon et maintenant on peut le faire. Donc c'est plein de petits cas comme ça où effectivement on voit qu'on peut améliorer les choses. Ce qui est intéressant aussi. En fait, nos clients particuliers, ils sont effectivement dans cette démarche de ne pas utiliser la clim parce qu'il y a une conscience écologique qui arrive de plus en plus. Et donc c'est un sujet pour eux aussi de dire, OK, on ne peut pas installer de climatiseur parce que ça pollue, parce que ça consomme de l'électricité, et ainsi de suite. Après, le confort de la clim, c'est que tu as juste à appuyer sur un bouton et tu as la température que tu veux, ce que notre peinture ne fait pas. Notre peinture, elle va faire baisser la température globalement, mais si tu as encore un peu trop chaud, bon, tu n'as pas de bouton. Et c'est ça qu'il faut réussir à avoir en tête, c'est de se dire, voilà, il y a le confort, mais il y a aussi derrière ce climatiseur qui va fonctionner, ainsi de suite, et que rien n'est magique, quoi. Des fois, on a tendance à oublier qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et tout fonctionne et c'est merveilleux, alors que malheureusement, derrière, il y a des externalités qui sont importantes, quoi.
Bon, on va continuer à parler de ces externalités, Maxime. On va se projeter pour imaginer à quoi ressemblerait une France dont les toits seraient majoritairement peints. On ira ensemble en 2030 glorieuse, mais avant ça, l'invité vient toujours avec un cadeau qu'il nous fait, puisque dans nos bibliothèques, dans les livres qui nous entourent au quotidien, il y a des fenêtres qui donnent des perspectives vers ces 2030 glorieuses. Et toi, tu es venu avec un roman particulier que tu voulais nous partager. Lequel est-ce ?
Oui, c'est Damasio, c'est Les Furtifs, qui parle effectivement de... Alors lui, il est en 2040, je crois, 2041 précisément, dans son roman moitié science-fiction, moitié réalité. Ils sont tous là, donc, tous les mouvements radicaux que compte l'Hexagone, avec pas mal de militants étrangers aussi, venant parfois de très loin. C'est toujours un signe quand ils viennent, le signe que ça va compter, que quelque chose de fort est en train de grandir, que nous ne sommes déjà plus dans la lutte locale, déjà au-delà, dans le rayonnant, le modèle ou l'inspiration possible. Ouessant, Notre-Dame-des-Landes, le Vercors font partie de ces luttes références. C'est parti pour l'être ici, ça s'intuite à plein de choses. Combien de temps ça fait que je n'ai pas vécu ces sensations ? 3 ans à peine et ça me paraît une éternité. Une vie antédiluvienne qui ressurgit me happe. Cet après-midi, j'ai participé à l'assemblée fondatrice du Langoustier, qui était arraché à Bordeaux Incorporation, puis définitivement conquis ce matin. Un hôtel 4 étoiles, 120 chambres de luxe, 2 restaurants, pas mal de bâtiments de service, une position sacrément stratégique à l'est de l'île avec la double plage nord-sud qui se touche et offre un double mouillage. Une mine de potentialité qu'il va falloir révolutionner selon une exigence de partage, métabolisée en auberges de jeunesse et en cantine, autogérée hors de la logique client-service sur laquelle le bâtiment était conçu. En faire si possible un hameau, voire un village autogouverné. Savoir Tishka avec Sahar, toutes les deux en train de faire le tour de l'île pour créer du land art, m'a totalement libéré. Je savais que cette journée, nous serions protégés par notre victoire et par la contrainte consécutive, pour le consortium battu de réfléchir afin de fomenter le prochain assaut. Qui lui aussi sera véloce, je ne me fais pas d'illusions. Je savais, surtout, Tishka vivante et heureuse, en sûreté ici, parmi les camarades, de sorte que pour la première fois depuis sa disparition, je pouvais penser à autre chose qu'à elle. Me consacrer à une passion mienne ne serait que quelques heures. Comme dans la plupart des assemblées de fondation que j'avais vécues dans les communes autogérées, des âgés toujours surinvestis affectivement, surexcités même, j'ai retrouvé l'éclatement multipolaire habituel. Cette façon assez unique, plomb et or à la fois, qu'ont les radicaux de se diviser et de se subdiviser à mesure de l'intensité des convictions qui nous fondent. Au premier conflit, tout est revenu en moi à la surface, disponible, tout mon métier de sociologue communard. La lecture des stratégies de groupe, la perception des charismes, les attitudes clivées de rupture, de consentement et de conflit, le tempo primordial des prises de parole, la question de la méthode, les votes pour savoir si l'on vote, celles qui croient à l'intensité, à l'énergie, que voter est une défaite, ceux qui croient à la méthode, à un minimum de règles, comme moi, parce que l'énergie s'équilibre, il prend une direction, évite la dispersion anthropique. Celles et ceux qui ne jurent que par l'action, le faire, l'immanence des constructions collectives, les « on fonce, on verra bien », sans voir que ce faire est déjà un choix imposé aux autres, qu'il faut justement questionner, et ainsi de suite.
Merci Maxime. Pourquoi tu as tenu à lire ces passages ?
Eh ben, il est hyper intéressant parce que c'est des choses que j'ai découvert chez Enercop, la façon de prendre les décisions et les façons de faire les choses ensemble, des choses que j'ignorais totalement. Je me rappelle très bien la première réunion que j'ai faite avec Enercop quand je suis arrivé. Il y avait une réunion et puis prise de parole, et moi j'ai pris la parole assez rapidement en disant bah moi je pense ça et puis blablabla, et en fait on m'a dit non, on va d'abord faire un tour de table et chacun va d'abord demander s'il y a des questions pour voir s'il y a des incompréhensions, et ensuite on refera un tour de table pour amener des propositions et des améliorations, ainsi de suite. Et en fait j'ai découvert ces choses là et donc ce récit en parle, ce passage en parle, de justement comment on amène une prise de décision collective, comment collectivement on a chacun nos idées, nos façons de faire, et puis petit à petit en fait on arrive à construire des choses, et ça c'est des choses que je n'avais pas du tout en tête, et chez Enercop ça fait partie des process qui sont importants et qui sont hyper intéressants en fait dans la méthodologie.
Cette question du fond et de la forme, effectivement, qui s'entrecoupent et qui sont à mener en parallèle, mais avec une importance égale. En tout cas, je te remercie pour cette lecture, Maxime. On est, ça y est, en 2030 glorieuse. C'est 2030 glorieuse, c'est un univers que j'ai imaginé. Je dis univers parce que en fait, il y a des possibilités qui sont infinies. On est bientôt au 50e épisode et pourtant, on a à chaque fois des différences, on a à chaque fois des singularités, et les personnes que j'amène avec moi en 2030 glorieuse à chaque fois font preuve d'un talent, d'une originalité qui leur est propre et qui moi me donne beaucoup d'espoir dans ces 2030 glorieuses qui seront en fait vraiment une permaculture des alternatives, des solutions et des manières de se relier au vivant. On d'utiliser notre imaginaire qui n'appartient qu'à nous, donc les gens qui nous écoutent et qui sont habitués à cet exercice ne nous en voudront pas si on erre un peu, si on prend notre temps, peut-être qu'on s'égarera parfois, mais peu importe, on va donner à voir à quoi ressembleront les 2030 Glorieuses, à quoi elles ressemblent d'ailleurs, ça y est, nous sommes au présent, les 2030 Glorieuses, et donc il faut qu'on arrive à le décrire le mieux possible pour que les personnes qui nous écoutent réussissent à avoir ces images qui naîtront dans leur pensée en même temps qu'elles viendront avec nous dans ces 2030 Glorieuses et suivront notre parcours. Maxime, toi tu es dans ces 2030 Glorieuses, tu regardes à travers la fenêtre de ton logement qui est forcément avec un toit peint selon la technique du cool roofing, et qu'est-ce que tu vois ?
Qu'est-ce que je vois ? C'est une bonne question. Je vois pas mal de verre quand même. Je pense que déjà, moi j'habite en ville et ça manque de verdure, ça, c'est, je crois que c'est un vrai problème aujourd'hui. Et donc, 2030, je vois du vert, je vois de l'eau aussi. Enfin, je pense que c'est les deux éléments très importants. J'espère aussi voir moins de voitures. Je suis toujours.
Tu es pas dans l'espoir, tu le vois, il y a moins de voitures. Hein.
Je le vois, pardon, je suis en 2030.
Et oui.
Donc, il n'y a pas de voitures, ou très peu. C'est un non-sens pour moi, donc effectivement très peu de voitures, des déplacements soit collectifs, soit doux, plus de place aux piétons, très clairement. Donc voilà globalement les choses que je vois quand j'ai ma vision en ville, je crois que c'est les principaux points importants.
Dans ce sens-là, on s'est inspiré de ce que faisait une ville espagnole nommée Pontevedra il y a déjà une dizaine, vingtaine d'années, et qui avait limité l'entrée des villes aux seuls professionnels, si bien que toutes les personnes qui avaient des voitures devaient les garer en extérieur de ville sur des parkings qui étaient spécialement dédiés à ça. Et donc du coup, on a récupéré toute cette place qui avait été donnée petit à petit, rognée, mangée par les voitures à l'intérieur de la ville, avec les parkings, avec les routes à double, triple voie, avec forcément toutes ces places de parking aussi en extérieur qui ont été utilisées pour faire des petits espaces verts, des bibliothèques de rue, pour avoir des tables et auxquelles on pourrait, sur lesquelles on pourrait s'asseoir pour jouer, pour écrire, pour dessiner. Et donc, avec forcément la pollution atmosphérique en moins, mais aussi la pollution sonore, la pollution visuelle qu'entraînaient toutes ces voitures qui vraiment inondaient la ville. Ça a radicalement changé. Toi, il y a 10 ans, Maxime, tu travaillais pour Aircool. Tu faisais en sorte que enfin la technique du cool roofing, elle arrive en France. Quelque chose d'aussi évident qui a mis autant de temps à percer, ça nous semblait un peu fou. D'autant qu'en 2030 Glorieuses, ça s'est largement propagé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui le cool roofing en France ?
Ouais, le cool roofing aujourd'hui en France, il est adopté un peu partout. Les gens ont pris conscience mécaniquement de ça parce qu'on a eu des belles canicules. L'État aussi a pris ce sujet en main, et il a autorisé cette solution à l'ensemble des toitures par rapport à l'urbanisme, et donc effectivement on voit fleurir des peintures blanches réflectives un peu partout, et au-delà de ça la prise en compte de la végétalisation aussi. Enfin voilà, les gens ont pris la main aussi sur leur bâtiment, que ce soit particulier ou professionnel. Donc oui, 2030, déjà un paquet de toits blancs, et des gens qui vivent un peu mieux leur été et qui sont pas sous la contrainte des chaleurs étouffantes dans leur bâtiment.
Oui, d'autant qu'il faut le dire, hein, tu t'en souviens sans doute, 2025, les grandes chaleurs extrêmes de l'été 2025 ont obligé les dirigeants politiques à déclarer l'état d'urgence climatique, et le cool roofing a été rendu obligatoire, notamment pour toutes les rénovations, parce que ces zones de chaleur extrême en ville, malheureusement, elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus régulières, et on a dû développer de vraies stratégies. Je parle du cool roofing, mais il y a plein d'autres techniques, hein, et d'ailleurs j'aimerais que tu m'en parles de ça, des stratégies qu'on a mises en place pour rendre cette ville dont toi tu parlais tout à l'heure en introduction des 2030 Glorieuses plus vivable, parce que malheureusement la température augmente et on le sent tout particulièrement dans nos espaces urbains.
Oui, exactement. Là-dessus, effectivement, les villes ont pu mettre des choses en place, déminéraliser, donc retirer le plus de bitume et de matériaux qui vont stocker la chaleur et la renvoyer particulièrement la nuit. Donc plus de végétaux, plus de points d'eau qui vont rafraîchir effectivement les quartiers. Aussi une réflexion sur la ventilation et les flux d'air en fait, où on a pu travailler beaucoup là-dessus, et donc les villes ont pris ces sujets en main pour la rénovation et aussi les nouveaux quartiers, faire en sorte que l'air circule et qu'il n'y ait pas ces sensations d'étouffement à cause des canicules. Donc c'est des choses qui ont été prises en compte, amener de l'ombre, ça peut paraître bête dit comme ça, mais aujourd'hui il y a beaucoup de villes où finalement il y a des grandes places sans aucune ombre, et donc des solutions assez simples ont été trouvées pour amener de l'ombre dans les quartiers, dans les villes, sur les places des différentes villes, donc pas mal de choses ont été faites.
Ouais. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, en 2021, les sujets, notamment concernant l'immigration, étaient vraiment en haut des tendances dans la presse et dans la bouche des candidats de l'époque aux élections présidentielles. Et ça paraît bien loin, hein, parce qu'aujourd'hui, en 2030 glorieuse, on a des systèmes d'échange, notamment universitaires, mais d'experts, d'architectes qui viennent des pays du Maghreb, qui viennent des pays d'Afrique où ces considérations sur la manière de gérer la température, de faire circuler l'air, comme tu le disais, de créer des zones d'ombre, d'économiser au maximum la ressource eau, ce sont des choses qui sont en fait presque innées, tant elles font partie de leur manière d'organiser la ville, d'organiser la vie. Et donc on bénéficie de tout un tas de programmes d'échange pour faire en sorte que ces techniques, que cette expertise, elles puissent enfin irriguer aussi le savoir-faire et la construction en France.
Ouais, exactement. Et le rapport s'est inversé, où effectivement cette vision 2020 de nous occidentaux sachant, on va amener le savoir partout dans le monde, là effectivement ça s'est inversé, où on demande de l'aide aussi effectivement à ces pays qui ont l'habitude de vivre dans la chaleur, avec des modes constructifs différents, avec des façons de faire différentes. Et donc effectivement tout ça s'est inversé, et donc il y a des échanges qui se mettent en place et où nous on se met en mode apprenant sur ces sujets-là auxquels on n'était pas habitué effectivement.
Ouais, c'est vrai. Et ce regard de la connaissance, du partage de ces savoirs, mais aussi cette relation à la technologie qu'on avait et qui était prépondérante, hein, dans notre vie. On a pris du temps, mais on s'est permis aussi de la re-questionner. Le cool roofing, c'est un bel exemple de ce que la technologie low-tech peut apporter. Mais finalement, cette technologie low-tech, elle a aussi pris de plus en plus de place dans nos villes, dans les maisons. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples comme ça de comment la low-tech nous a permis de vivre mieux, mais de vivre aussi peut-être de manière plus sobre, plus lente, plus consciente?
Ouais, alors je sais pas si tu as beaucoup d'exemples comme ça. Moi, tout de suite, le sujet low-tech qui me vient en tête tout de suite, c'est le vélo, forcément, sur les transports. C'est vraiment te dire, voilà, on se déplace en vélo et voilà, c'est quelque chose de tellement simple. Enfin, moi, ça me semble tellement évident. On a aussi, dans le bâtiment, très clairement, le chauffage solaire où on peut faire des choses de façon assez simple, l'eau chaude aussi solaire, hein, c'est des choses qui existent dans les Antilles, au Maghreb, où au lieu d'avoir un ballon électrique ou un ballon à gaz qui chauffe l'eau, on utilise le soleil avec ses apports qui peuvent se faire. On a pas mal de choses aussi, ouais, l'utilisation du soleil, on a le développement de la cuisson solaire aussi, c'est des choses qui sont hyper intéressantes, où on peut cuire avec peu finalement. Il y a même des entreprises, hein, qui existent désormais, des boulangers solaires, des différentes choses qui font des choses assez magiques sans consommer une goutte de gaz ou d'électricité, donc hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire.
Ouais, tu parlais de Philippe Biwix ou de Jean-Marc Jancovici tout à l'heure. Il y a un autre ingénieur qui se décrit dans sa fiche de poste comme ingénieur aventurier, il s'appelle Corentin de Châtel-Perron. Et il y a 10 ans en arrière, il avait fait le tour du monde des low-tech dans une super série qui s'appelle le Low-Tech Lab, dans laquelle il visitait tout un tas de pays sur plusieurs années. Et il allait identifier comme ça les low-tech pour réussir à les consolider et les mettre à disposition du monde entier dans une sorte de grand wiki des low-tech pour que ces technologies qui permettent en fait d'assurer les besoins de base de l'humanité puissent être propagées le plus largement possible parce que en fait elles sont nécessaires, mais surtout elles sont nécessaires parce qu'elles nous redonnent notre autonomie aussi par rapport à la relation à la technologie qui pouvait parfois être un peu pour le dire gentiment biaisée, mais en fait même j'allais carrément dire nocive quand on y repense il y a 10 ans en arrière.
Ouais, complètement, ouais, c'est sujet tellement important et qui sont désormais acceptés, hein, parce qu'effectivement 10 ans en arrière on voyait ça comme des choses un peu naïves, mais en fait petit à petit on s'est rendu compte que ça avait un intérêt fort et que et qu'il fallait y aller et que ça allait pas on va dire détériorer notre qualité de vie, donc clairement tous ces sujets là et toutes ces solutions low tech elles font sens, il faut juste les comprendre, et aujourd'hui elles sont comprises par tous et acceptées par tous, et donc c'est une bonne chose que ça soit enfin développé.
Toi, qu'est-ce que tu fais, Maxime, en 2030 Glorieuse ?
2030 Glorieuse, je travaille un peu moins. Je passe plus de temps avec mes amis, avec ma famille. On prend plus de temps. Je suis pas sûr d'habiter encore en ville. Je pense que ouais, la bonne forme, c'est le village où on se retrouve. Et donc, on est heureux de partager aussi des moments et de se retrouver, ouais, effectivement, à plusieurs, en petits groupes, et de pouvoir passer plus de temps ensemble. Ouais, ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement en 2030 Glorieuse.
Et tu tires une fierté de ces dizaines de milliers d'emplois qui ont été créés à travers la France grâce à cette technique de cool roofing que tu as participé à propager. Aujourd'hui, il y a quand même une quantité assez phénoménale de personnes qui travaillent à peindre les toits, à propager ces bonnes pratiques. Et d'une certaine manière, tu as contribué à cet essor-là. Qu'est-ce que ça provoque en toi ?
Ouais, je pense qu'il faut rester modeste. Et moi, j'ai juste apporté un élément déjà existant qui venait des États-Unis. Je l'ai effectivement amené ici. Le fait que ça ait pris et qu'on ait pu se développer et donner du sens aussi aux personnes qui ont pu travailler, c'est génial. Mais clairement, moi j'ai développé l'idée, mais derrière c'est toute une équipe en fait qui a pu travailler dessus et faire les bonnes choses et avancer. Donc.
Ouais, bien sûr, je comprends. Je comprends ton humilité, j'insiste quand même pour dire que souvent la démarche écologique, elle était souvent, bah c'est vrai, hein, connotée comme quelque chose de restriction, de réduction, et donc alors que on est biberonné à cette croissance économique depuis des dizaines d'années, on avait l'impression que ça allait forcément porter atteinte à cette croissance et donc aux métiers qui vont avec. Et vous, avec l'exemple du cool roofing, vous avez montré qu'au contraire, il y avait des nouveaux métiers qui pouvaient émerger et qu'on parlait pas d'un métier par-ci par-là, d'un emploi par-ci par-là, mais vraiment de dizaines, de centaines, de milliers d'emplois.
Ouais, complètement. Et ça effectivement, c'est un sujet important. En fait, on y gagne tous, hein, à faire des économies d'énergie. Et donc c'est ce qu'on a réussi à prouver finalement, c'est que ça amène de l'emploi, ça amène de la sécurité aussi par rapport à nos importations d'énergie, à pas mal d'éléments, et donc bah, effectivement on a réussi à prouver ça et à montrer que c'était possible, et d'autres l'ont fait aussi, et donc ouais, c'est un point important qu'on a pu mettre en place, et que bah, effectivement ça a pu créer des emplois un peu partout en France. Ouais.
Maxime, si on revient en 2021 et qu'on regarde un peu, voilà, ces 2030 glorieuses, plus sobres, mais aussi plus créatives. J'ai entendu dans tes envies le fait de plus t'ancrer dans la slow life. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui nous écoutent pour cheminer vers ces 2030 glorieuses-là ? Quelle est la première action à mettre en place là, dès la fin de cet épisode ?
Alors ça, je sais pas. En fait, chacun a son chemin. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça dépend de leur niveau. Moi, ça m'étonne toujours parce qu'on on vit tous un peu dans nos bulles. Alors moi, j'ai l'impression que tout le monde est formé au changement climatique et tout le monde a ce sujet-là, mais malheureusement, en fait, pas du tout. Donc, il y a déjà tout ce sujet de lire, d'écouter, de regarder des vidéos ou je ne sais quoi pour en apprendre un peu plus sur le changement.
Mais allons-y alors, du coup, sur ces questions de formation, qu'est-ce que tu nous conseilles concrètement? Toi, qu'est-ce qui a participé à ton éveil, à ton éducation sur ces sujets qui sont primordiaux et éminemment complexes, hein?
Ouais, Philippe Hewix, il a contribué, Jean Covici a contribué avec ses contraintes aussi de son côté, mais il a quand même un discours qui flash un peu. Pablo Servigné aussi, alors assez violent Pablo Servigné, très clairement il y a 3 ans quand je l'ai écouté pour la première fois où ça fait un petit choc, hein, mais très clairement ça fait partie des sujets et des personnes qui font un petit choc et qui disent waouh, ok, on en est là. Faire des enfants aussi, ça amène un petit choc parce que ce que je disais au début de l'interview, ça recadre un peu et puis ça amène à une autre vision du futur. On n'est plus seul au monde, on a des responsabilités avec ces enfants qui vont vivre les années 2050, 60, 70 et ainsi de suite. Donc c'est ces éléments-là. Et puis pour toutes les personnes qui sont déjà formées, sensibilisées à ces sujets, moi j'ai envie de leur dire essayez de sauter le pas, hein. Il n'y a pas trop de risques finalement à essayer de créer des choses, soit pour ceux qui ont envie de faire de la politique, de se lancer en politique, ceux qui ont envie de créer une asso, de lancer une entreprise, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans leur entreprise et qui se posent cette question de dire à quoi bon mon métier sert, et en fait il y a plein de choses à faire, il faut juste se dire bon allez on tente la chose, et effectivement il y a un salaire à ramener à la fin du mois, mais je pense qu'on peut tenter des choses, se le permettre. Il n'y a pas beaucoup de risques finalement derrière. Si jamais ça ne marche pas, on peut retrouver un boulot, on peut refaire des choses. Mais il faut à un moment donné juste se lancer et se dire allez go, on y va.
Merci Maxime.
Merci à toi Julien.
Ça y est, cet épisode avec Maxime Claval d'Aircool est terminé. C'est vrai que je mets assez peu en avant des solutions techniques pour dessiner avec vous les 2030 glorieuses, mais voilà, cette solution d'Aircool avec le cool roofing, elle me plaisait. Ça fait pas mal de temps que je tourne autour, que j'en entends parler, que des personnes viennent avec des exemples concrets de cette efficacité, et finalement moi de voir que les ingénieurs, que les entreprises à travers ces solutions low-tech, elles peuvent créer des emplois, elles peuvent proposer des solutions aux autres entreprises mais aussi aux particuliers qui sont des solutions simples pour pouvoir un vrai impact sur la réduction de la hausse des températures et de l'inconfort que va provoquer, quoi qu'on fasse, hein, dès aujourd'hui, la hausse des températures dans les prochaines décennies. Moi, ça me parlait bien, et donc j'étais très content de mettre en avant cet exemple qui est pour l'instant assez minoritaire en France. Hein, ils en sont vraiment qu'au début, mais ça mérite d'être largement propagé. Donc même moi, voilà, je me disais que si vous étiez dans cette situation dans votre vie, vous vous posez encore la question de... Qu'est-ce que vous allez faire maintenant au niveau professionnel et qu'est-ce que vous voulez développer ou qu'est-ce que vous voulez rejoindre comme dynamique, celle d'Aircool, me paraissait intéressante parce que c'est tellement encore aux prémices qu'il y aura forcément la nécessité de faire en sorte que cette solution elle puisse s'ancrer sur tous les territoires parce qu'il y en a des kilomètres carrés de toits à peindre et donc il va en falloir des bras avec toutes les opportunités économiques aussi forcément que cela va générer puisque les 2030 glorieuses c'est plein de croissance mais forcément encore le temps de cette bascule de la transition économique. Sur une note plus particulière, vous avez entendu que ma voix est un peu cassée. J'avoue que je redoutais cette interview et d'être un peu inaudible avec cette voix tout enrouée, mais j'ai l'impression que ça a marché, donc je m'en excuse quand même. Mais je vous dis, promis à dans 2 semaines, en meilleure forme. Et en attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Allez, à très vite. Salut.
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !